any persuasion, cause she said that I'm a favorite.
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire.
D4B.
André Marc-Aimé,
Brigitte Goimard
et Louis et vous proposent
un dernier polar
pour la route.
Une émission consacrée aux polars et romans noirs du 19e au 21e siècle.
La 28e.
Animée par trois passionnés locaux.
Membres de l'association 813.
Association des amis des littératures policières.
Au sommaire de cette émission spéciale,
une interview de l'auteur toulousain Pascal Dessin.
Invité du festival Regard Noir de Niort.
Interview enregistrée le vendredi 6 mars.
Allez, c'est parti.
Merci Pascal Dessin d'accorder un peu de votre temps aux auditeurs d'un dernier polar sur la route sur la radio D4B. Alors Brigitte qui fait équipe avec nous n'est pas là aujourd'hui, mais André Marc est présent. Et moi-même, nous sommes installés à Fort Foucault à Niort. Et cette interview coïncide avec votre venue au festival Regard Noir 2026 à Niort, une ville et un festival que vous connaissez déjà puisqu'on avait eu l'occasion de se rencontrer en 2016.
Oui.
Pour le chemin s'arrêtera là.
S'arrêtera là, oui, oui, tout à fait. Ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans. On se voit, on se tutoie.
On fait comme on veut.
On fait quoi? On peut se tutoyer, ce sera plus facile.
Ben oui, oui, oui. Bon, en plus, on est camarades 813.
Voilà, c'est ça. As-tu gardé un bon souvenir de ce passage à Niort?
Ah oui, ah bah oui, 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 j'avais apprécié. Moi, j'aime les endroits où circule l'eau. Alors, la Sèvre m'émeut, évidemment.
Bien sûr.
Et non, j'ai de bons souvenirs. Je me souviens qu'avec Jérôme Leroy, nous avions été sur la brocante, qui se tenait, je crois, le samedi, sur une place pas très loin d'ici. Donc, voilà. Et puis, la qualité des débats, je me rappelle. Il y avait énormément de public sur les débats. Et des débats de très belles tenues.
C'est ce qui fait aussi la force du festival, hein. Je crois que c'est cette animation. Et les gens aiment bien ça, quoi.
Bah, il n'y a pas de bon festival sans d'échange. Voilà. Parce que si c'est pour aller à la rencontre des auteurs, ce qui est tout de même un peu bizarre parfois, sans qu'il y a de l'échange, de la conversation, du débat, quoi. C'est un peu pauvre. Donc, un vrai festival, c'est un festival qui propose des lectures, des rencontres et des temps de signature, parce que c'est un exercice qu'on aime bien aussi. On aime bien avoir une relation plus intime, entre guillemets, avec un amateur du genre.
Avant de parler de ton dernier ouvrage, L'envers de la girafe, édité chez Rivage, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'ensemble de ton parcours littéraire, commencer, si j'ai bien lu la biographie, par une première publication en 1992?
Ouais, ça fait quelques temps, oui. Ouais, ouais,
qu'est-ce qui t'avait donné ce goût à l'écriture?
Oh, ben, je l'avais depuis longtemps, ce goût. Parce que je suis venu au roman par la lecture de romans et pas en écriture par la poésie et c'est quelque chose qui était en moi depuis l'adolescence. On est souvent à écrire à l'adolescence, ces tourments, ces interrogations, ces angoisses du monde. Je pense que les jeunes encore aujourd'hui le font, hein, d'une autre manière peut-être, mais je pense qu'on a toujours, on a toujours mal. Quelque part, donc on a besoin de se libérer de certaines émotions. Donc l'écriture était naturelle chez moi parce que j'étais dans un environnement favorable. Mes parents, quoique ouvriers, mettaient la lecture très haut dans le quotidien. Il fallait absolument s'instruire, donc lire. Donc j'ai eu cette chance, donc j'ai écrit très tôt, en fait. Après, il a fallu plus de temps pour en arriver à la publication. Mais jusqu'en 92, j'avais écrit bien des poèmes, quelques nouvelles, dont une que j'avais publiée dans une revue, qui s'appelle toujours d'ailleurs L'encre renversée. Et puis ensuite est venu le roman. Voilà, et c'est un cheminement ensuite classique, hein, on en écrit un. On est arrivé au bout, c'est une victoire. C'est une victoire d'aller au bout d'un premier livre, hein, beaucoup de gens n'y parviennent pas. Ils ont peur. Et ça, c'est déjà de la sélection. Hein, une sorte de sélection naturelle qui s'opère là par la capacité d'aller au bout d'une première histoire. Et puis une première histoire, ben, crée du manque et oblige à commencer une nouvelle histoire et ainsi de suite. Le fait est que moi, j'ai pas publié le premier livre que j'ai écrit. C'est le quatrième, je crois, que j'ai publié. Et ben oui, parce que moi, je ne savais pas faire. Je n'avais pas non plus de soutien important de gens qui pouvaient me guider, qui pouvaient me conseiller, me recommander. Donc, ça a mis plus de temps. Et c'est bien parce que, du coup, j'ai eu ce que j'appelle des livres d'apprentissage qui m'ont permis de me tester un peu dans l'écriture, dans ma capacité à faire vivre les personnages. Voilà, c'est des livres que je n'ai pas relus depuis, hein, qui méritent le tiroir.
Mais on peut dire que ton travail quand même est riche, varié et reconnu, puisqu'en 2000, avec le premier polar Du bruit sous le silence, qui est dans le domaine, dans le milieu du rugby, hein, tu as obtenu le grand prix de la littérature policière.
Ouais,
vraiment, comme c'est déjà, j'imagine. Et en 2003, le trophée 813 du meilleur
c'est
roman.
Vrai, tout à fait.
Francophone, pour mourir n'est peut-être pas la pire des choses.
Voilà, et en parenthèse, deux fois le prix Mystère de la Critique, en 97 et 2007, je crois. Bah oui, c'est une période où j'étais particulièrement gâté. Bah c'est une belle période, et puis c'est une période faste aussi pour la collection qui m'accueille, Rivage. Hein, c'est grandes années pour Rivage. Donc tous les auteurs qui sont dans la collection bénéficient de la dynamique de la collection, évidemment sous l'autorité de François Guérif. Ouais, donc voilà, oui, il y a eu là à ce moment-là l'affirmation de mon talent.
Ouais,
peut-être. Voilà, donc j'ai été chanceux dans cette période-là parce que c'est un peu un âge d'or, hein. On se rend pas compte, mais ça a été très vite la concurrence au livre, hein. Et on a encore une vitalité du lectorat, un lectorat très curieux, très consommateur de livres, et les collections romans noirs de l'époque fonctionnent bien mieux que certaines aujourd'hui, il faut le dire.
Dans ce domaine du roman, du polar, roman noir, est-ce que tu as eu des auteurs en particulier qui t'ont inspiré ou qui...
Oh ben la figure tutélaire, c'est Jim Thompson. C'est celui dont... Oui, François Guérif a décidé à un moment donné de tout faire retraduire et notamment et puis surtout de publier des inédits, des livres à côté desquels Gallimard était passé. Je pense à Alali, par exemple, qui est un livre formidable. J'ai eu l'occasion de présenter dans le petit supplément de Rivage sur Jim Thompson l'année dernière. Donc Jim Thompson, oui, la figure emblématique, c'est celui dont je me sens le plus proche parce qu'il est comme lui. Je vais aller traîner au fond là. Tu évoquais Le chemin s'arrêtera là, c'est ça. C'est un livre thompsonien parce que je vais vraiment. C'est pas tant les délits que peuvent commettre mes personnages que la noirceur qui est en eux qui détermine ces délits. Les délits, on s'en fout un peu, mais cette noirceur là terrifiante que la part d'ombre, la part de noirceur absolue qui peut y avoir dans l'humain. Donc moi je me sens très proche de cet auteur. S'il ne faut en citer qu'un, c'est celui-là.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, oh, ma cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leur ventouse. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse.
On reviendra tout à l'heure, parce que je voulais qu'on reparle un peu aussi, on parlera de cette collection dans, chez Rivage des iconiques.
Oui.
On finira là-dessus, si tu veux bien. Oui, donc, beaucoup de tes livres sont sous le signe de la nature malmenée.
Ouais.
C'est un nouveau, enfin, c'est une nouvelle approche, peut-être.
Bon, ben, maintenant, ça fait 20 ans.
Voilà, oui, c'est donc.
Ça fait 20 ans, d'ailleurs. Parce que depuis mourir n'est peut-être pas la pire des choses.
Loin des humains.
Loin des humains, tu ne verras plus, cruelle nature.
Les derniers jours d'un homme.
Enfin, il y en a maintenant pas mal, qui parlent de la nature, effectivement, comme on l'abîme. Voilà. Comme l'humain l'abîme. Et c'est pas des tentatives de réconciliation entre l'humain et la nature, parce que c'est impossible, je crois, aujourd'hui, de réconcilier l'humain avec la nature. On le voit encore, ces guerres auxquelles on assiste en ce moment montrent bien qu'on est détaché du bon sens de la vie, et malheureusement notre humanité est obligée globalement d'en assumer les conséquences. Et voilà, donc c'est sans fin aujourd'hui, à tout point de vue, partout, il y a l'agression faite à la nature, et voilà. Et peut-être parce qu'on oublie qu'on en fait partie intimement, On est aussi une espèce parmi d'autres. Enfin, c'est tout un débat, mais c'est vrai que c'est au cœur de mes romans depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, j'ai parlé de l'effondrement de la biodiversité, j'ai parlé du trafic d'espèces rares, j'ai parlé des ZAD, comment naît une ZAD, c'est dans Un homme doit mourir, ou aussi les conséquences d'un projet autoroutier, c'est dans Maintenant le mal les fait. J'ai parlé effectivement du risque industriel, de la menace industrielle dans Loin des humains ou dans les jours d'un homme. Donc voilà, ce sont mes thématiques. Effectivement, à chaque fois, la nature en souffre et nous, de fait, nous en souffrons aussi.
Oui, dans le cadre du festival Regard Noir, nous vous accompagnons pour une balade champêtre entrecoupée de lectures. Et une expérience précédente à Saint-Florent-le-Vieil, l'an passé, nous avait bien plu. Et est-ce que c'est une pratique ponctuelle ou un désir de partager avec vos lectrices et lecteurs une expérience plus approfondie ou...
Oui, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, je me suis aperçu que il fallait faire autrement. C'est-à-dire qu'un auteur à une table de signature, notamment quand il s'agit de signer dans une librairie, quand on n'est pas une star et encore, on n'attire pas grand monde, parce que ce n'est pas évident d'aller vers un auteur, même que l'on aime beaucoup. Moi, je vois très bien souvent des lecteurs qui prennent des livres dans des festivals sans venir vous voir pour le signer. Je le constate souvent, et donc c'est pas une démarche naturelle, je trouve, et normale. Moi, je le ferais pas, par exemple. Je fais dédicacer un livre à un copain comme ça parce qu'il se passe quelque chose entre nous. Mais voilà. Et donc je me suis dit, tiens, il faut faire autrement. Il faut que le livre soit dans la vie même. Et donc cette idée d'embarquer des lecteurs dans la nature pour ce moment ensemble qui marque. Et bien plus que de rencontrer un auteur en salon. Voilà. Et ça fait venir au livre des gens qui ne n'y viendraient pas forcément. C'est-à-dire que si c'est bien préparé, et ici aujourd'hui à Niort, je sais cet après-midi que c'est bien préparé parce qu'il y a 40 inscrits, ce qui est quand même une très belle jauge. Faut déplacer 40 personnes dans la nature et le temps de les rassembler. Moi, j'ai pas de border collie pour rassembler mon troupeau. Le temps de se mettre en place, bon, c'est un moment déjà d'intimité, de rassemblement. Et c'est un vrai partage. Et à partir de là, il se passe des choses. Il y a une intimité. Moi, je suis toujours ému par l'attention. C'est vraiment très 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 émouvant. Et puis, je sais qu'il y a là des gens à chaque fois. Je raccroche les wagons, qui n'étaient pas forcément disposés à cette littérature-là, même si elle est très variée, ma littérature, entre le polar, mes récits de nature, la poésie. Maintenant, j'ai une palette très large qui peut conquérir beaucoup de gens très différents. Mais on n'est pas censé forcément le savoir. Il y a des gens qui viendront vers moi pour le polar ou pour la nature. Enfin bon, c'est devenu assez complexe. Et là, je m'aperçois que j'emporte dans l'aventure. Des gens qui, voilà, tous ces vierges, quoi. Ces vierges, parfois, sur mon œuvre, ils me découvrent, ah, tiens, cet auteur-là existe. Et aussi sur la littérature, parfois. Parce que quand c'est très bien préparé en amont, que toutes les associations du territoire ont été sollicitées, les marcheurs, les randonneurs, les naturalistes, les associations de nature, et qu'on leur explique bien qu'il se passe un truc, là, qui, c'est magnifique. Et c'est en général, je ne sais pas, j'ai pas encore assez de recul, mais il y a des connivences qui s'installent et c'est une aventure à long terme. C'est-à-dire que par exemple, un lecteur gagné cet après-midi me restera.
Ah, voilà. Intéressant.
Ah oui, c'est très intéressant parce que je crois qu'on a oublié, on oublie trop souvent que la littérature est une chose vivante et que elle vient de la vie, il faut qu'elle revienne à la vie. Voilà, c'est très important.
Il y a des auteurs qui font des lectures musicales, mais c'est vrai qu'avec la démarche de la balade, ça, on voit pas.
La voix est déjà une musique quelque part. Non, parce que je sais pas que je pratique, mais c'est en projet. Mais voilà, cette idée d'être dans la vie même. Voilà. Et puis, alors, je ne prévois pas toujours une lecture
en relation avec le lieu. D'ailleurs, le parcours de cet après-midi, je ne le connais pas. Donc, j'ai fait un choix assez varié, assez classique. Mais il est évident que parfois, sauf si on avait été en montagne, par exemple, j'aurais fait un choix plus prononcé de textes de montagne, par exemple. Voilà. Si on avait été au milieu d'un marais, comme je le serais au mois d'avril, je crois, en Brière, voilà, c'est dans pas longtemps aussi, une balade. Voilà, j'orienterai mes lectures autrement, voilà. Donc, c'est un show, quoi.
C'est bien. Tu parlais de la palette de tes écrits, de ton écriture. T'as également abandonné la fiction pour des histoires vraies. Que j'aime beaucoup, moi. Pense à un roman comme Le Colosse, par exemple.
Oui.
Bouquin que j'aime bien, que j'avais adoré. Et l'affaire Jules Vatrin.
Voilà.
Donc, c'est aussi une autre façon d'aborder la
littérature. Oui, voilà. Ça veut dire que on est dans l'écriture, il faut pas se donner de limites. Bon, j'ai jamais tenu au long cours un personnage sur plusieurs romans. Je l'ai fait deux fois, avec Émile pour la première trilogie toulousaine. Et puis avec Félix Dutré, le capitaine de police, donc justement, on y revient, les premiers livres qui ont pour cadre la nature malmenée, mourir n'est peut-être pas la pire des choses, loin des humains, et tu ne verras plus. Et à un moment donné, bon, il faut aller sur d'autres chemins, parce qu'on est rempli de plein de choses. Moi, je suis de formation, je suis historien, je suis passionné par l'histoire sociale, ce qui rejoint mon travail de romancier aussi, parce que j'ai abordé la question de l'ouvrier, du mal qu'on lui fait aussi dans nos sociétés, à travers Le Chemin s'arrêtera, Les derniers jours d'un homme, Cruelle nature. Mais là, j'avais envie de me tester sur un autre siècle, et ça a été donc un colosse, et puis
une écriture vraiment
plus
ciselé, me semble.
C'est un autre parti pris esthétique. Alors l'écrivain elle-même, on le reconnaît bien. Mais quitte à changer d'univers, d'époque, il fallait changer aussi d'écriture. En tout cas, tester une autre façon d'écrire que j'aime. Et ça, c'est pas fini. Il y en aura un autre bientôt. Parce que le 19e est un siècle qui me fascine et puis c'est passionnant.
Une graine qui tombe sur un gramme de terre.
Una grana che si innesca in un grammo di terra.
Qui se bat et qui monte tout droit vers la lumière.
Che chavole et qui monte tout droit cap à l'estelle.
En buvant aux averses, en évitant les coups. Des gens qui la renversent, des vents qui la traversent, et qui restent debout. C'est l'histoire du monde, t'en verras pas la fin. La racine est profonde, c'est d'elle que l'on tient.
La racine est profonde, c'est d'elle que tenen.
La fièvre et le courage de jamais renoncer. C'est tout sauf un mirage. Un jour de son feuillage, tu entendras glisser.
Si sparti di più,
cado sul mare. entre les pierres, qui pour survivre ne trouve rien, qui roule, roule encore et qui soudain se pose contre et trouve enfin un gramme de terre.
Donc là aussi, il y a eu d'autres lecteurs qui sont venus à moi grâce à ces livres et des lecteurs qui ne me connaissent que par ces livres aujourd'hui. C'est rigolo.
Ouais, c'est bien.
Ouais.
Donc cette année, tu présentes au festival en particulier donc L'envers de la girafe, un chaussée-croisée de personnages au bord de la crise de nerfs.
Ouais, un peu, ouais. En tout cas, en proie à l'anxiété de l'époque, c'est l'éco-anxiété.
Tu peux nous dire un peu plus de Gaspard, Lucas, Élie et mon préféré. Moi, c'est l'homme à la craie.
Sans
dévoiler la
chute. Je prends une avenue de Toulouse qui est l'avenue de l'Urse, que j'ai rebaptisée l'avenue du Paradis. n'y voyez pas une ironie. Comme j'avais fait dans Le chemin s'arrêtera là, j'utilise, c'était une digue dans ce livre-là, là c'est une avenue et je l'utilise un peu comme un plateau de théâtre, voilà. Et sous l'œil d'un homme proche de la retraite et qui a comme vocation, signe des temps, de surveiller une zone urbaine depuis son centre de caméra, là. Et il voit des choses, évidemment, que les gens entre eux ne voient pas, puisqu'il a du recul, bon, mais il a la distance qui l'empêche d'entendre, toutefois. Donc il est là à regarder, et puis sur cette avenue il y a une femme qui se présente à son balcon, qui pour le coup est en proie à un malaise de vivre et qui va être elle est de ces gens qui se lancent comme ça dans des actions éco-citoyennes qui peuvent paraître un peu dérisoires mais qui pour moi sont importantes parce que c'est un peu la théorie du colibri, quoi. Chacun sa petite goutte. Bon, et c'est important, c'est très très important parce que c'est de l'action.
Ouais,
c'est agir. Et c'est mieux que de ne pas agir. Donc même petitement, il faut faire sa part. Donc ça c'est important. Elle est là, mais bon, elle est en proie à un grand trouble qui est accentué par le fait que Pierre, son compagnon, est un peu comme Yves Montand dans Le salaire de la peur. Il transporte son métier, c'est pas une vocation, et de transporter des matières dangereuses. Et donc, bon, il y a comme un contraste là, un petit peu violent entre les deux personnages. Et puis, il y a un autre personnage, donc sous l'œil de Gaspard, c'est effectivement un naturaliste, qui lui est rempli d'un drame personnel, dont il se soigne en scrutant les belles de bitume, comme il dit, les ruderales, ces plantes qui nous poussent dans les rainures là, et dont on ne connaît pas la beauté finalement, parce qu'on ne les regarde pas, elles sont juste bonnes à être foulées. Et lui, c'est sa thérapie inconsciente, je crois. J'en suis même sûr, c'est que il instruit les gens. Quand il voit une plante sur le trottoir, un pissenlit, une pariétaire de Judée, n'importe quoi, une rose trémière, il sort sa craie et puis il note la plante. Voilà. Et puis il y a un autre garçon qui lui a une béquille bien plus grande qui est la girafe, sinon il n'y aurait pas de jeu dans tout ça qui va mener au drame, à un drame de la vie urbaine. Voilà, donc c'est pas vraiment un polar, parce que ce qui est bien, c'est que chez Rivage, c'est bien marqué Rivage noir, c'est-à-dire on est dans le roman noir. Il n'est pas nécessaire forcément qu'il y ait enquête criminelle, qu'il y ait même un environnement policier, quoi. Là, il n'y a même pas mort d'homme. Je dis bien d'homme. Il y a du non-humain qui souffre, par contre.
Oui, alors je parlais tout à l'heure en termes de reconnaissance de ton travail. Les éditions Rivage ont sorti Les Iconiques de François Guérif en 2024 et ont réédité un de tes polars, Bouche d'ombre, que par ailleurs j'avais acquis la dernière fois qu'on s'était vu à Saint-Florent-en-Laye, qui est particulièrement noir.
Ah oui, hein, ah oui, c'est le livre qui m'a rattaché aux yeux de beaucoup de gens à Jim Thompson.
Voilà, donc et c'est ce que je voulais dire. Donc dans cette collection, on y retrouve quand même des pointures: Jim Thompson, John Harvey, David Goodis, Edward Bunker, mais aussi Hugues Pagan, Pierre Signac, Jean-Hugues Opel, Marc Villers.
Bravo. Ouais, mais il y en a tant d'autres, ouais. Tant d'autres. Tu oublies de James Ellroy, James Carlos Blake. C'est un catalogue extraordinaire.
Ça fait plaisir. J'imagine que pour toi aussi, ça fait plaisir. C'est une reconnaissance quoi, dans le milieu.
Ah ben en plus, François Guérif on lui a proposé donc cette idée des iconiques de la collection. Ça veut dire que c'est déjà une collection emblématique, historique. C'est un sacré rendez-vous pour la littérature, hein, Rivage Noir. Et puis, ça veut dire aussi que je suis dans la maison depuis plus de 30 ans quand même. et donc de faire aux yeux du patron. De figurer au nombre des classiques de la collection, ça fait du bien, ouais, ça fait plaisir.
Eh bien, on va pas tarder à conclure. André Marc, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, j'ai une autre question. Alors, je m'étais procuré le petit recueil de poésie que t'as fait.
Oui, Oiseaux et autres instants.
Oui, très bien.
Dont je lirai des extraits.
D'accord. Et est-ce que t'as prévu de refaire d'autres parenthèses poétiques
ou... Oh, ça pourra. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Il y a des choses qui sont dans le tiroir. On verra comment on les organise à un moment ou à un autre. Moi, c'est une aventure qui m'a plu parce que qui me plaît, on va le dire, parce que là, c'est un texte vivant qui vit dans la vie même aussi, hein, celui-là, puisque je me repose aussi sur lui en atelier d'écriture, parce qu'il y a des textes qui favorisent des jeux d'écriture. Donc, c'est un texte vivant, et je viens de la poésie, donc c'était quand même pas mal qu'un jour, j'ose publier un recueil de poésie. Et puis c'est un bon petit éditeur, le Petit Écart.
Voilà, je voulais qu'on finisse là-dessus quand tu nous parles de Petit Écart.
Bah oui, bah c'est une édition qui propose justement à des auteurs qui ont une œuvre de faire un pas de côté.
Les bons objets.
Et ce sont de beaux objets, de proposer autre chose. Et les auteurs n'osent pas toujours écrire autre chose parce que ils pensent que leur éditeur ne peut pas se permettre ou n'a pas le désir de publier une facette différente de celle qu'ils connaissent. Alors, s'il y a des questions économiques aussi qui font que les auteurs n'osent pas, parce qu'ils sont concentrés sur une œuvre qui leur est bien plus profitable. Et il y a la certitude de l'éditrice qu'il faut provoquer les auteurs à oser autre chose. C'est pour ça que Patrick Péchereau a osé un texte magnifique, un lettre à B, où il raconte, où il est allé sur les traces de la Barbara de Prévert, qui a disparu, et où c'est l'occasion de toute une traversée d'une époque extraordinaire. C'est comme ça que Romain Slocombe nous a raconté sa première histoire d'amour, une bluette invraisemblable à Saint-Jean-de-Luz, quand il avait 10 ans. Quand on connaît l'œuvre de Romain Slocombe, on est quand même assez effrayé de tant de douceur. Et puis Marin Ledin qui a donné à l'éditrice un texte magnifique où il réfléchit sur le rôle du roman noir et de l'auteur de roman noir. Michel Quint, qui jamais n'avait, alors que c'est un grand amateur de jazz, il n'avait jamais écrit sur le jazz. Il a donné 2 novellas sur le jazz. Enfin, et puis Jackie Schwartzman, oui, avec Allez-vous faire foutre, oui, qui a écrit un texte vraiment rafraîchissant sur le football, où vraiment c'est un essai. Alors là, c'est aussi un essai. Ça va devenir un classique. Hein. C'est déjà la 3e édition. Et c'est un texte qui porte bien.
Pour les amateurs de football, c'est le match de Coupe du Monde.
Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais il raconte ça.
Il raconte avec ses mots.
Ouais, ouais, non, mais puis il raconte des choses, que évidemment, contestable du point de vue féminin, mais il nous raconte des choses qui sont assez politiquement incorrectes. Ouais, savoureux. Il faut lire Allez-vous faire foutre, Jackie Schwartzman, le Petit Écart.
Tu veux rajouter quelque chose?
Bah non, je suis bien.
Bah écoute, c'était formidable.
On peut continuer.
Merci, merci, merci.
Merci à vous.
Voilà, ainsi s'achève notre émission.
Nous retrouverons notre schéma d'émission habituel le mois prochain.
Merci de votre attention et n'oubliez pas...
Lire n'est pas un crime et...
Notre seul but est de vous empêcher de dormir.
C'était le slogan de la série noire à une époque.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ?
Ouais, c'est pas faux.
Décapé.
Mon microclimat,
que bonita. Si es mon amour, mon centre chuta, ma cousmo pulida. Alternativa. Si es ma valu, mon garde mangia, mon iniciativa. Si es ma fresco, mon aiga dupra, ma franco margarita. Sentre ciutà, ma cosmopolita. Meraviglia, hai tu malaguia, mi danno fede. Se manda por cabal mayer, trae la pieza en lo cute.
Passage d'hirondelle en plein vol. Je me perds dans ce ciel si confus, rattrapant ces fuyards à la corde. Ironie de mes gestes futiles, je m'assois un moment et je songe. Par le sens de ma vie, sans croyance, sans refuge qui console, mon avenir incertain s'épaissit, de ne devoir poser mots ni paroles. J'avais cru de mes mains les saisir, ces oiseaux messagers, farandoles, mais un vent passager au détour emporta avec lui ma mémoire. Et méprise en passage mon conscient. Un instant, ma main tremble et me livre. Mes images qui rondaient la filante. Aujourd'hui, je saigne, je transpire. Tous mes sens se font plus saisissants. Aujourd'hui, je réouvre mon livre. Et vous livre à jamais.
Parler est un besoin, écouter est un art.
D4P.
Plus rien n'est rouge, ouais, c'est l'hiver. Le sang de nos veines prolétaires, assolé dans un grand silence sur cet écran où vit la France. Et rien ne bouge, y a pas de fenêtre dans nos décors brisés. Ces quatre murs pour le verbe être, je suis tué, assassiné. Assassiné. Plus rien n'est rouge, pas même notre sang. Nos cœurs transparents font rêver la misère. Chacun la sienne, chacun sa peur. Regarde ce gosse, copie conforme, marqué, griffé, compte comme des hommes. Y'a rien ne bouge, c'est pas la fête, un vrai bal de curé. Même nos victoires sentent la défaite. Pas de héros, 10 euros pour rêver. Pour rêver. Plus rien n'est rouge. Pas même notre sang, nos cœurs transparents font rêver la misère. Plus rien n'est rouge dans l'œil des taureaux. Y'a plus que des drapeaux et des couleurs qui crèvent. Plus rien n'est rouge. Plus rien n'est rouge. On va vers des routes communautaires, aux millions d'inconnus, seuls sur terre, persuadés seulement d'avoir quelques frères dans la couleur du sang ou dans le fond d'un verre. Et non plus rien n'est rouge dans cette fumée farouche que personne ne croit parce qu'elle sort de nos bouches. Pourtant rien qu'une colère au fond de nos poitrines, ce même goût amer de fer et d'aspirine. Plus rien n'est rouge, pas même notre sang. Nos cœurs transparents font rêver la misère. Plus rien n'est rouge dans l'œil des taureaux. Y'a plus que des drapeaux et des couleurs qui crèvent. Plus rien n'est rouge. Plus rien n'est rouge.
song, a cruel song. This is a cruel, sad song. Never wanna be left on his own. This is a cruel song, a cruel song. This is a cruel song. Never wanna be alone. Yeah.
The day you're gonna leave me with another man, it won't be so simple. You can think I'm a stranger, I'm still your husband. I don't wanna be left on my own.
Remember, all I've done for you.
So there you go, leave me with another man. It's gonna be the one.
Thank you.
나는 돌아줘서